l'inflation aujourd'hui des acteurs de l'information, qu'ils soient journalistes ou citoyens journalistes, est vraiment très très difficile. Pris en étau entre à la fois un régime qui continue à arrêter des acteurs de l'information et de l'autre, certains groupes d'opposition djihadistes qui, eux, s'en prennent également à ces mêmes acteurs de l'information, sans oublier également les forces de sécurité du pays grec dans les zones kurdophones. Donc c'est aujourd'hui très difficile pour un acteur de l'information, qu'il soit syrien ou étranger, de travailler en Syrie. Si le bilan humain est vraiment, vraiment très très lourd, avec plus d'une centaine de journalistes et citoyens journalistes aujourd'hui qui ont perdu la vie dans l'exercice de leur fonction de collecte d'informations, c'est l'information elle-même qui est la principale victime de ce conflit.
Vous avez dit qu'ils étaient pris pour cible autant par le régime que par des groupes rebelles. De quelle manière exactement ?
Donc par le régime, ça peut être à la fois toujours des arrestations, voire des assassinats ciblés. Ça, c'est les principales cibles qui viennent par le régime, ou également dans certaines zones comme Hama ou Idlib, où les combats continuent à se dérouler. Il y a également un certain nombre d'acteurs de l'information qui sont tués dans des bombardements. Et de l'autre, c'est beaucoup d'enlèvements. On a une multiplication et une recrudescence des enlèvements depuis le printemps, notamment par le Daoula Islamia, Daesh, qui multiplie des enlèvements, que ce soit de Syriens, et c'est eux vraiment les Syriens la principale cible, mais également de journalistes étrangers.
La raison de ces enlèvements est-elle politique, financière, idéologique ?
Elle est relativement inconnue. S'il y a certains enlèvements qui sont crapuleux, on l'a pu le voir avec notamment le cas du journaliste franco-américain, le photographe Jonathan Halperry, qui a été enlevé visiblement par un groupe mafieux. Mais ce n'est pas le cas de la plupart de ces enlèvements. Notamment, on peut voir pour Nicolas Hénin, Pierre Torres, Didier François et Edouard Elias, les motivations réelles de ces ravisseurs est relativement inconnue. Et c'est ça qui pour nous inquiète. On n'arrive pas à comprendre exactement les motivations de ces ravisseurs. Et donc, voire même la question, est-ce que la seule motivation, c'est juste qu'il n'y ait pas de journalistes en Syrie ?
Alors, j'imagine que vous avez des contacts avec des journalistes qui sont allés sur place. Qu'est-ce qu'ils vous racontent, ces journalistes, de leurs expériences ? Qu'est-ce que vous en savez ?
Certains journalistes, aujourd'hui, ne veulent plus y aller ou qui ont annulé leur dernier reportage. Ça a été le cas récemment en septembre de certains journalistes qui, au vu des informations qui venaient du terrain, ont préféré annuler leur reportage. Et de l'autre, on a pu voir comme Ala Kodmani, Araka, qui en tant que Syrienne, en femme journaliste syrienne, elle a pu faire un reportage en passant complètement inaperçu. Les journalistes qui peuvent travailler éventuellement aujourd'hui en Syrie, c'est des journalistes qui parviennent à passer totalement inaperçus, à se fondre dans la masse. Parce que, et ça tout le monde nous l'a dit, quand on est visible, on peut être la cible d'enlèvement. Donc ça c'est d'un côté de la part des rebelles, et de l'autre côté on a également des journalistes qui, au mois de septembre dernier, ont pu se voir délivrer un certain nombre de visas. Le régime a délivré un certain nombre de visas à des médias occidentaux au mois de septembre dernier, notamment quand il y avait cette approche de frappe imminente. Et là, on a aussi des journalistes qui nous ont dit « Moi, j'ai refusé de monter mon reportage parce que, à la fin, je ne pouvais vraiment pas travailler dans ces conditions. À part relayer la propagande du régime, je ne pouvais rien faire. »